Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RTL en ce jour férié. Effectivement, vous l'avez compris grâce à Pascal Pro, qui ne l'est pas férié pour nous, puisque nous avons le plaisir de vous retrouver en direct sur votre radio préférée et sur l'application RTL. Il vous suffit de composer le 3210 ou de vous rendre sur nos réseaux sociaux pour participer à nos conversations et nous éclairer de votre expérience. Je vous le disais donc, dans un instant, Stéphanie va nous raconter sa rencontre avec un homme qui aurait pu tout lui prendre et la laisser exsangue. Il n'y a rien à attendre de la fréquentation des pervers narcissiques, on peut seulement espérer s'en sortir indemne, concluait Paul-Claude Racamier, psychiatre et premier médecin à avoir identifié cette pathologie. Sous des atours irrésistibles de charme et de vivacité, ils sont redoutables, ils sont sans cœur et sans empathie. Ils procèdent insidieusement, se nourrissent du meilleur de nous-mêmes, nous désorientent et piétinent notre amour propre. Alors qui sont ceux qui se cachent derrière cette appellation désormais employée de façon systématique et parfois hasardeuse? Quel est leur mode opératoire? Qui sont leurs victimes? Quels dégâts font-ils et comment s'enfuir? On en parle avec nos invités. Et pour l'heure, Stéphanie va témoigner sur cette antenne. Stéphanie, bonjour.
Oui, bonjour Flavie, bonjour à toute l'équipe.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Une relation qui a duré 10 ans, c'est le père de votre fille de 11 ans, qui a désormais 11 ans, c'est votre petite dernière?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Bon, merci hein, Stéphanie de revenir sur ce passé que vous ne regardez très certainement plus de la même façon aujourd'hui qu'au moment où vous y étiez, parce qu'on ne se rend pas toujours compte, évidemment, de ce qui nous arrive.
C'est ça.
C'est Edwige qui nous écrit sur Facebook, 5 ans pour se laisser piéger sans rien comprendre, 5 ans pour s'aplatir et se considérer comme inutile et 5 ans pour se relever et arriver à fuir. Stéphanie, dans quelles circonstances avez-vous rencontré l'homme dont nous allons parler ?
Eh bien, j'étais dans une période où émotionnellement j'étais abattue.
Ouais.
J'étais dans une relation avec mon mari qui était compliquée. On n'arrivait plus à s'entendre. Et j'ai, pour combler un manque, en tout cas, j'ai pratiqué le chat sur Internet.
Ouais.
Et j'ai rencontré cette personne. J'ai rencontré cet homme. On a dialogué très longtemps. Il habitait la même région que moi, la même ville que moi.
Il était comment ?
Et on s'est rencontrés. Il était parfait.
Ah oui.
Il était parfait. Il n'y avait absolument rien à dire. C'était l'homme idéal, hein, dans les paroles en tout cas.
Est-ce que vous vous êtes dit justement à ce moment-là, Stéphanie, ça y est, je vais enfin pouvoir me reposer. Je vais enfin pouvoir être heureuse. Le bonheur est à ma portée.
Complètement.
Oui.
Tout à fait.
Il avait du charme.
Il avait énormément de charme.
Ouais.
Il avait un regard hypnotiseur.
Ouais. C'était, il avait une audace, il avait, en fait, il correspondait à tout ce qui vous avait toujours fait rêver.
Oui, complètement.
Ouais. Ouais.
C'était pour moi l'homme idéal. C'était celui qui aimait partager les mêmes choses que moi, enfin, en tout cas, qui me le faisait croire.
En fait, vous avez vécu un grand début d'histoire d'amour, quoi.
Tout à fait, on y croit.
Ouais. Ça a duré combien de temps? Est-ce que les choses se sont installées très vite entre vous?
Oui. Oui, oui, ça a duré, je veux dire, on a dû parler pendant 6 mois, on s'est rencontrés. Et par la suite, il était, lui, sans emploi, et il allait se faire expulser de son domicile, et il est venu vivre avec moi très vite.
Ah oui, d'accord. Donc en fait, très rapidement, vous lui avez ouvert la porte.
Complètement.
À ce pauvre homme si magnifique, si génial, et qui en même temps était en train de traverser une période difficile, quoi.
C'est ça.
Ouais. Vos deux filles donc étaient avec vous. J'y vais déjà avec vous.
Alors effectivement, j'avais deux grandes filles.
Ouais.
Dans ma première union, qui vivaient effectivement avec nous aussi.
Et comment ça s'est passé avec les filles?
Au début, très bien. Notamment avec l'aînée. Ma cadette avait, bien que très jeune, avait déjà quelques soupçons. Elle m'éveillait sur certaines choses, mais moi, j'étais obnubilée. J'étais dans mon histoire d'amour.
Ouais.
Et je ne voyais pas, donc je lui disais, mais non, tu te fais des idées.
Qu'est-ce qu'elle vous disait?
Qu'il était bizarre, sa façon de réagir, sa façon de faire avec elle aussi, puisqu'il était plus ou moins dans la tolérance, et en même temps, d'un autre côté, il était dans la sévérité.
Elle avait quel âge à cette époque-là, votre fille, quand elle vous parlait?
Elle avait, écoutez, c'est très simple, elle avait 6 ans.
Dis donc, elle était courageuse, cette petite nana là, hein, de venir voir sa maman en lui disant il y a des trucs qui vont pas, on y reviendra.
Elle a été tout le long, oui, tout
c'est
à fait.
C'est super fort pour un
tout
enfant.
À fait.
Parce que voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, Cet homme s'est installé avec vous trois. Et à quel moment avez-vous senti, Stéphanie, que les choses n'étaient pas telles que vous pouviez les imaginer au départ ?
Il y a eu plusieurs choses qui ont éveillé un peu mes soupçons, notamment le fait qu'il fouille dans mon portable. Déjà là, ça m'a un petit peu interloquée. Il supprimait tous les contacts masculins que j'avais. Donc je me suis retrouvée sans avoir de contact avec mes collègues masculins ou avec des amis masculins. Donc tout ça, c'était pas possible. Il y avait aussi le fait qu'il n'acceptait pas que je puisse apporter des solutions ou que je puisse apporter des choses concrètes dans le foyer, en fait. Il voulait que ce soit lui qui ait toujours la main sur ce foyer-là, qui puisse donner son accord, ses décisions, et décider de tout, en fait. Ça aussi, ça m'interloquait un peu, mais je rebondissais en lui donnant des excuses, en fait, en disant, mais s'il le fait, c'est pour mon bien. Et puis c'est ce qui me faisait croire, de toute façon.
Oui, c'est ça. Tout était... C'est parce que je ne te veux que du bien. Je ne pourrais pas te faire de mal puisque je ne te veux que du bien.
C'est ça. Et si je décide ça pour toi, c'est pour ton bien. C'est pas pour te faire mal.
Mais toi, tu es forcément aveuglée. Tu peux pas te rendre compte du bien que je te veux.
Non, c'est ça.
Parce que t'es un peu une fille à problème, quoi.
Oui, c'est ça. C'est ça. Donc il fallait absolument que je... Voilà, c'était pour moi. Je le faisais par amour.
On va se retrouver dans un instant parce que vous allez nous expliquer effectivement ce que cet amour... affiché en tout cas, est devenu au fil du temps. Et puis cette façon que vous avez eu de fuir, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe en général avec ce genre de personnage. On se retrouve tout de suite, Stéphanie, sur RTL. Merci pour votre confiance. À tout de suite.
Merci.
Flavie Flamand sur RTL.
Moi je veux devenir quelqu'un.
Les Frangines sur RTL avec Devenir quelqu'un.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Nous parlons aujourd'hui des pervers narcissiques. Stéphanie, vous nous racontez votre histoire. Il en est une qui vous écoute. Elle est dans ce studio. C'est Christelle Petit-Collin. Bonjour Christelle Petit-Collin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes coach en développement personnel, conférencière. Vous êtes écrivain et vous êtes auteur d'un livre Victime, bourreau, sauveur. Comment sortir du piège, paru aux éditions Jouvence. Est-ce que là, on est clairement dans le profil type? On en est au début de l'histoire de Stéphanie avec cet homme. Dans le profil type du pervers narcissique.
Oui, complètement. C'est des gens qui sont incroyablement standards. On retrouve toujours à peu près le même déroulement. Et dans mon cabinet, j'ai l'impression d'écouter toujours la même histoire.
C'est dingue, avec des dégâts qui sont évidemment toujours...
Mais c'est même surprenant que ce soit si mal connu. Donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, alors que le processus est à ce point... standardisé, quoi.
Néanmoins, on a beau le savoir, c'est très très difficile parce que les choses se font insidieusement, Stéphanie. C'est vraiment ça, parce que quand on rencontre l'homme parfait qui se révèle petit à petit avec quelques petites failles, quelques petits défauts et qui en même temps est quelqu'un qu'on n'a pas envie de laisser sur le chemin parce qu'ils souvent ils ont des problèmes, souvent on est là pour leur porter secours. En fait, on se rend pas compte du piège que l'on nous tend dans ces moments-là.
Pas du tout. Non, on est complètement obnubilé par cette relation idyllique, en fait.
Ouais.
Et par ce personnage qui est quand même très charismatique.
Oui.
On est pris au piège là-dedans. Et pour moi en tout cas, c'était la normalité ce que je vivais. Il le faisait pour mon bien.
Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il avait deux facettes? Parce que vous nous avez parlé de signaux, mais maintenant avec le recul, vous viviez avec un homme et parfois qui se donnait en spectacle, qui donnait à voir auprès du monde extérieur certains aspects de lui-même et que vous connaissiez vous aussi dans les coulisses. Et là, c'était pas le même homme.
Exactement. Il y avait deux profils. Il y avait vraiment ces deux personnages qui étaient dans la vie extérieure quelqu'un de solaire parce que il forçait un peu l'admiration. Il aimait mettre en valeur sa famille en tout cas. C'était quelqu'un d'empathique, à l'écoute, attentionné. Et en privé, c'était tout l'inverse.
Alors, c'est-à-dire concrètement.
C'est-à-dire que c'était quelqu'un qu'il fallait complètement lui être soumis. Il fallait lui faire à manger, il fallait que je sois présente quand il me téléphonait, il fallait que je réponde immédiatement à ses SMS quand il m'en envoyait un. Et c'était pareil pour mes deux filles aînées. Il fallait vraiment être à ses pieds, en fait.
Est-ce qu'il était humiliant ?
Oui.
Ça passait par quoi?
Oui, ça passait par de la critique, notamment sur mes tenues vestimentaires. Tout ce que je portais n'était pas bien, ça ne lui convenait pas. Donc, il avait même, en dernier, il choisissait même mes vêtements pour moi, parce que il n'était jamais content. Ou alors, ça passait par de la critique de plats dont je lui préparais à manger, c'était pas bon. Alors, il le laissait de côté, il ne mangeait pas. Voilà, c'était tout un tas de petites choses comme ça qui, à longueur de temps, c'était fatigante en fait.
Est-ce que justement, à ces périodes, si vous voulez, de harcèlement, de méchanceté, en tout cas cette volonté de vous contrôler, est-ce que ces périodes aussi étaient parfois adoucies par des moments de tendresse?
Complètement. C'était effectivement ponctué de moments où il était charmant, il était à l'écoute, il était tendre. Il était prêt à acheter tout n'importe quoi, même s'il n'en avait pas forcément les moyens, d'ailleurs. Et puis, on rentre dans ce processus, on se dit, finalement, il est parfait, quoi.
Oui, je ne peux pas lui en vouloir, parce qu'en même temps, il a tellement de qualités par ailleurs, quoi.
Exactement, et on rentre dans ce schéma où, effectivement, donc là, on a cette période de tendresse qui va durer, je vais vous dire, 3-4 semaines, et puis après, on repart sur un climat qui est malsain.
Il vous faisait des cadeaux parfois?
Oui. Alors, c'était des cadeaux très particuliers. Aux occasions des anniversaires ou de Noël, généralement, il m'amenait dans les magasins et puis il me demandait un petit peu ce que j'aimais. Donc, je lui présentais plusieurs choses, plusieurs choix. Et au moment où il devait me les offrir, donc au jour de l'anniversaire ou de Noël, je me retrouvais avec le cadeau où j'avais dit que je n'aimais pas du tout, en fait. C'était tout l'inverse. Cadeau le plus moche.
Et vous deviez remercier.
Bien sûr.
Donc c'était encore une façon.
Oui. Et c'était fait en présence des membres de ma famille, généralement, oui.
Oui, donc vous ne pouviez pas à un moment donné faire une réflexion aurait été mettre au grand jour finalement une problématique et vous faire passer pour ce que vous n'étiez pas.
Exactement, je l'ai fait pourtant, j'ai osé. Ouais. Et effectivement, je suis passée pour folle. Pour celle qui était la mauvaise, quoi.
C'est ce qu'il vous disait que vous étiez folle?
Oui. Oui, ça je l'ai entendu à plusieurs reprises et c'est des mots que j'entends encore. Oui, bien sûr.
Que vous étiez hystérique?
C'est ça.
Et en plus, ça nous rend de plus en plus dingue dans ces moments-là.
Oui.
Ils nous rendent hystériques.
Oui, tout à fait. On rentre dans un processus où effectivement, et puis plus eux, ils aiment ça en fait. C'est qu'ils vont nous pousser à l'être pour montrer. Moi, en plus, c'était devant mes enfants, donc ils disaient aussi à mes enfants que regardez votre mère comme elle est. Et lui, il en dégageait quand même. On avait l'impression que ça le remplissait d'énergie, tout ça. Et moi, j'en sortais complètement affaiblie.
Je disais tout à l'heure qu'en fait, ce sont des personnes qui se nourrissent du meilleur de l'autre. Vous avez eu le sentiment qu'il vous mangeait, qu'il vous grignotait au fur et à mesure?
Ah oui, on est complètement pris dans une toile d'araignée. Enfin, moi, j'avais l'impression, maintenant je le dis, hein, sur le coup, effectivement, oui. Je ne le ressentais pas comme ça, mais j'avais l'impression que ça me mangeait. C'est comme la mérule, en fait.
Oui, c'est ça.
Ce champignon qui vous mange de l'intérieur, et vous n'arrivez pas à vous en sortir.
Stéphanie, un jour, vous avez fui.
Oui.
Vous avez réussi à partir. On sent effectivement que vous avez été affaiblie au fur et à mesure du temps qui passe, parce que c'est effectivement ça aussi qui fait que beaucoup de femmes restent avec des hommes pervers narcissiques, c'est qu'elles sont tellement affaiblies qu'elles ont le sentiment qu'on ne les croira jamais et qu'elles ne pourront jamais se relever. Donc c'est la seule solution, c'est de s'enfuir. C'est ce que vous avez fait. On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous dire où vous en êtes, justement, puisque vous avez un enfant en commun. Et on se rend compte effectivement que les choses peuvent aller très très loin. Ensuite, on accueille nos invités. À tout de suite.
À tout de suite.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
11h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand.
Bon,
sur
les
RTL.
Messages qui viennent évidemment très nombreux sur nos réseaux sociaux. On parle des pervers narcissiques. Luce nous écrit sur Facebook. J'ai dû me sauver tout simplement. C'est un très long travail du quotidien pour le corps et le cerveau qui oublie. Sa perversion était telle que je n'étais pas sa première victime et la sixième. Aujourd'hui, il est incarcéré. 3 ans pour m'en débarrasser alors qu'au bout de 3 mois, je Je savais que cela ne mènerait nulle part, nous écrit Bénédicte. 5 ans pour s'en remettre et la seule personne que je déteste de tout mon être et à qui je mettrais mon poing dans la gueule si d'aventure je le recroiserais. Je le recroisais 21 ans après. Les pervers narcissiques, on les rencontre dans nos vies, peut-être à des moments où nous sommes affaiblis, et ce sont des personnes très fines, hein. Ce sont des prédateurs, Stéphanie, qui sont très fins et qui savent à un moment donné repérer nos faiblesses pour mieux s'y engouffrer et quelque part aussi soumettre leur proie au point de les contrôler. Stéphanie, un jour vous vous êtes enfuie parce que vous avez senti au bout de 10 ans que c'était sûrement vital pour vous, hein, puisque vous viviez un harcèlement au sein de votre foyer avec cet homme que vous aviez tant aimé et qui par ailleurs aussi arrivait de temps en temps à se présenter sous un jour agréable. Donc dans ces cas-là, en fait, c'est tellement difficile. On est une sorte de phénomène d'aliénation, hein, que lorsque l'autre tout à coup est sympa, on se dit waouh, ça y est, peut-être que c'est la fin. Et non, en fait, ça n'est jamais la fin. Et c'est à la victime de s'enfuir. Et ça, c'est difficile. Est-ce que vous vous êtes sentie soutenue, Stéphanie ?
Pas du tout.
Allez. Vous n'aviez déjà plus grand monde autour de vous, si j'ai bien compris.
Alors effectivement, j'avais ma meilleure amie qui était toujours à mes côtés, parce que c'est grâce à elle d'ailleurs que je suis partie.
Oui.
Et puis mes enfants.
Oui. Entre-temps, vous aviez une petite fille.
Tiens,
je voulais vous demander, est-ce que les choses se sont aggravées lorsque vous avez été maman ?
Oui. Oui, oui, oui. Là, ça a été encore autre chose. Ça a été, on est passé à un grade supérieur d'ailleurs.
Ah oui.
Parce que je n'avais pas du tout, très peu de contrôle sur ma fille, du coup.
Je comprends.
S'approprier vraiment tous les bons moments avec elle, et moi, j'avais tout ce qui était contrainte, c'était pour moi.
Et puis, vous aviez un lien là, indéfectible avec lui.
Exactement. Tout à fait.
L'arrivée d'un enfant dans un couple comme ça, c'est une façon aussi, à un moment donné, de marquer définitivement la tâche et le lien.
C'est ça.
Donc ce lien, il faut le rompre. Comment ça se passe lorsque l'on a un enfant en commun ?
Eh bien, on réfléchit.
Ouais.
J'ai essayé de tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que ma meilleure amie me dise ce que tu vis, c'est pas normal. Regarde comment tu es faite. C'est vrai que j'étais très fatiguée, j'avais perdu 13 kilos en l'espace d'un mois.
La pauvre.
Et on réfléchit pas. J'ai pensé à mes enfants d'abord, puis il s'est passé un événement qui a été déclencheur en tout cas. Un repas, le dernier repas d'ailleurs, j'avais tout préparé à manger. On se met tous à table, on se sert. Et ma fille cadette me dit « Maman, je suis désolée, mais j'ai rien dans mon assiette, il n'y a plus rien dans les plats. » Et en fait, il s'était servi, il avait fini les plats, son assiette était débordante de nourriture. Et il regardait ma fille en rigolant. Là, c'était le déclic, j'ai eu un geste malheureux, je lui ai lancé l'assiette dans la figure et ma fille est née à appeler la police.
D'accord.
Et là, la police m'a dit « Vous êtes dans une situation de violence psychologique, il faut partir avec vos enfants. » C'est ce que j'ai fait.
Tiens, vous avez été soutenue par la police.
Oui, tout à fait. J'ai été soutenue par la police, exactement.
Bon, et qu'est-ce qui s'est passé après, alors, puisque vous avez une fille en commun ?
Alors, j'ai obtenu la garde de ma fille pendant 6 ans, ensuite. Et là, à la suite d'un dernier événement, en fait, il s'est passé qu'il a fait fuguer ma fille, qui était à la maison, que j'avais en garde. Il l'a fait fuguer et depuis, eh bien, on lui a donné la garde. On lui a confié la garde.
Ça fait combien de temps ?
Ça va faire 6 mois.
Vous l'avez revue, votre fille, depuis 6 mois ?
Je l'ai vue une fois.
Elle est
là ? Je l'ai revue une fois. Pardon.
Oh, ma pauvre Stéphanie. J'aimerais bien vous prendre dans mes bras, là. Je vous comprends tellement. Vous savez quoi ? Il y a Christelle Petit-Collin qui est à mes côtés. D'ailleurs, vous allez vous adresser aux enfants de manipulateurs dans un webinaire. On va donner les coordonnées à Stéphanie pour qu'elle puisse vous suivre.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire à Stéphanie, là, qui est encore avec
qu'il
nous ?
Il faut essayer coûte que coûte de maintenir le lien.
D'une façon ou d'une autre.
D'une façon ou d'une autre. Et le meilleur moyen de ne pas rompre le lien, c'est d'être le plus neutre possible, hein, dans un premier temps, le temps de récupérer le lien. Donc, des petits texto, on ne parle de rien qui fâche, on maintient le lien jusqu'à trouver comment réembobiner la bobine. Et puis ce que j'explique effectivement dans mes webinaires et dans mes livres, c'est qu'il faut utiliser ce qu'on appelle des phrases de vérité qui ne critiquent pas directement le parent manipulateur, mais qui reposent les choses. Par exemple, dire à son enfant, tu as le droit d'aimer tes deux parents. On n'a pas le droit de te demander de détester un de tes parents pour te permettre d'être aimé de l'autre, etc. Mais des phrases très neutres, c'est pas ton
qui
père,
désamorce en fait ce qu'il peut entendre par ailleurs. Quoi.
Voilà, ce que j'appelle des phrases de vérité.
Ouais,
tu es petit, il est grand, tu as le droit d'aimer ta mère, ça ce n'est que la vie de ton père, et des petites phrases comme ça pour petit à petit remettre en place un discernement.
Oui, sauf que là, pour ma part, en tout cas, ma fille ne veut pas m'entendre.
Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille, Stéphanie ?
11 ans.
11 ans. Elle est petite.
Et c'est provisoire. Il faut espérer que c'est provisoire.
Elle est jeune, Stéphanie.
Oui, tout à fait.
Vous savez quoi ? Je vous laisse pas comme ça, parce qu'on est ensemble maintenant. Donc on va passer par un flash info là avec Yann Boucherie qui vient de s'installer dans ce studio. Et ensuite, on invitera Yvonne Poncet-Bonisol à parler avec nous, d'accord ?
Entendu.
Ok, allez, à tout de suite Stéphanie.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
Merci d'être avec nous jusqu'à 15h30. Nous parlons donc des pervers narcissiques à travers vos témoignages qui arrivent nombreux, évidemment, sur nos réseaux sociaux. On vous salue, on salue ceux qui ont dû s'enfuir, souvent celles qui ont dû s'enfuir, à l'instar donc de Stéphanie qui est en ligne avec nous. Yvonne Poncet-Bonisol, bonjour.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne. Vous avez entendu donc tout le témoignage de Stéphanie. Stéphanie, vous êtes toujours avec nous. Vous venez de nous expliquer que vous n'avez plus de lien avec votre fille depuis maintenant 6 mois, suite à une dernière manipulation, je dirais, parce que c'est effectivement les pervers narcissiques sont très forts, jusqu'à parfois manipuler les tribunaux. Et aujourd'hui, donc, vous n'avez plus de contact avec votre fille de 11 ans. Votre fille dont vous nous avez dit qu'elle est dans un rejet. Qu'est-ce qu'on peut dire, Yvonne Poncet-Bonisol, à Stéphanie aujourd'hui ?
Alors, il est vrai que votre fille, finalement, a dû idéaliser son père pendant toute cette absence et qu'aujourd'hui, il a fait en sorte de créer avec elle, comme avec vous, Stéphanie, une sorte de conte de fées. Donc, elle est avec son père dans une phase de cristallisation quasiment amoureuse. Donc, ce qui est absolument dangereux. Ce qu'il faut faire, c'est que je pense que Stéphanie a eu un jugement par rapport à la garde, qu'elle a sans doute des droits de visite qu'il faut appliquer à la lettre. Il faut absolument rien laisser passer si elle a le droit certainement à un droit de visite. Il ne peut pas avoir la garde totale alors que votre fille n'a que 11 ans. Ou alors faire appel. Bon, il faut de toute façon toujours faire appel à la loi. Et, comme disait Christelle, surtout donner des phrases de vérité, c'est-à-dire ne jamais critiquer le parent. À un moment donné, sa fille va ouvrir les yeux. Ouais. Elle va quitter, elle aussi, sa cécité psychologique. Mais il lui faut un certain temps. Et il n'y a que 6 mois qu'elle est avec son père. Or, vous savez, son père fait en sorte que tout ce qui est différent de leur système de pensée, eh bien, est rejeté. Pour le moment, sa mère est rejetée. Elle est victime, finalement, d'une forme d'aliénation. Tout ce qui vient d'elle sera rejetée. Il faut précisément qu'elle envoie, il est vrai, des messages d'amour, des messages cohérents. Il faut faire ce qu'on appelle un love bombing, comme dans les sectes. Elle est dans une forme de relation sectaire avec son père. Mais il ne faut pas désespérer parce que c'est vrai que j'ai une association depuis 30 ans, j'ai eu des cas comme Stéphanie, mais vraiment beaucoup, on arrive toujours à retrouver des enfants. Mais il faut appliquer la loi. Et il faut faire appliquer la loi d'une manière assez ferme et ne éviter d'être dans une forme d'émotion trop forte et éviter d'en avoir peur. Parce que ce sont des tigres en papier. Il faut sortir progressivement et délicatement votre fille de cette emprise sectaire.
Stéphanie, vraiment, je pense que le temps, pardonnez-moi, et après je vais donner la parole à Christelle Petit-Collin. J'imagine que ça vous fait du bien, Stéphanie, d'entendre des propos comme ça.
Complètement.
Le temps est votre allié, si je peux me permettre. Et effectivement, sortir de l'émotion pour être juste dans une relation factuelle et en revanche être constante avec votre fille, c'est quelque part garder un lien et lui tendre une sorte de perche qu'elle ne lâchera jamais et elle saura quel chemin emprunter pour vous retrouver. Mais les enfants finissent par ouvrir les yeux, Stéphanie. Parce qu'à un moment donné, quand on est constant et qu'on leur présente représente finalement l'équilibre qu'ils n'ont pas par ailleurs. Ils sont pas fous, hein, nos enfants. Et quand on leur présente quelque chose de tendre, on devient des bras dans lesquels ils ont envie de se blottir, au fur et à mesure. Hein. Christelle Petit-Colin.
Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Yvonne Poncet-Bonisol. C'est le fait de ne plus avoir peur de ces tigres de papier. Oui. Et puis, un autre point très important, un manipulateur tue l'esprit critique et tout le travail du parent sain est de réveiller cet esprit critique sur plein d'autres domaines, c'est-à-dire toujours pas critiquer le père, mais réveiller l'esprit critique à propos d'un film, à propos d'un livre, à propos d'une situation, les bons côtés, les mauvais côtés, renuancer la pensée, puisque les manipulateurs sont binaires, c'est nul ou c'est génial, c'est bien, c'est mal, t'es de mon côté ou t'es de l'autre côté, tout renuancer, réveiller l'esprit critique en permanence pour que cet enfant n'oublie pas qu'il y a d'autres façons de penser que celle de son père.
Vous savez ce qu'on va faire aussi, Stéphanie, c'est que vous allez rester en ligne avec nous. On va prendre vos coordonnées, on va vous envoyer les ouvrages de nos invités, Victime, Bourreau, Sauveur, Comment sortir du piège, aux éditions Jouvence de Christelle, et Yvonne, Pour en finir avec les tyrans et les pervers narcissiques dans la famille, aux éditions d'Angle.
Et comme je me permets de lui envoyer aussi Protéger l'enfant du parent pervers narcissique, qui est le dernier.
Bon, voilà. Là, Stéphanie,
c'est très gentil.
Vous restez en ligne avec nous, on prend votre adresse et vous recevrez ça dans les jours qui viennent, d'accord?
Entendu, merci beaucoup.
Ah, je vous prends mes bras.
Merci Flavie, c'est
gentil. Je vous assure que ça va aller, je vous jure, il faut juste être patient. Et c'est difficile, mais le temps est notre allié. Je vous embrasse Stéphanie.
Moi aussi, merci à tous.
À bientôt, restez en ligne avec nous.
Bon, au revoir.
Eh ben dites donc, alors je sais que vous entendez ça tout le temps Christelle Petit-Colin, mais c'est intéressant effectivement, ce mode opératoire, ces différentes étapes à un moment donné, on ne peut pas les ignorer. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire de Stéphanie concrètement? Quel est le mode opératoire des pervers narcissiques?
Alors, c'est toujours le même mode opératoire, ce sont des personnes qui ont deux visages, elle l'a très bien décrit, un visage sympathique pour l'extérieur, un visage morose et sinistre à l'intérieur. Un mode opératoire en trois temps. D'abord, une phase de séduction. Alors moi, j'ai envie de dire, il était parfait. Quand c'est trop beau pour être vrai,
ouais, faut se méfier.
C'est que c'est vraiment trop beau pour être vrai. Il faut vraiment y croire que c'est trop beau pour être vrai. Hein.
Non, voilà. Mais c'est vrai, parce qu'on se dit, mais c'est lié, quoi.
Elle a très bien décrit...
Voilà. Exactement, vous avez raison, Yvonne.
Elle a effectivement aussi très bien décrit à quel point ils se mettent en mimétisme. Donc, il était d'accord avec elle au début tout le temps, donc phase de séduction. Puis, quand ils sont dans la place, arrive la phase de harcèlement, qui est en fait du dressage. Mmh. Quand tu réagis comme je veux, je suis gentille. Quand tu réagis comme je veux pas, je te punis. La carotte, le bâton, jusqu'à ce qu'elle soit dressée à lui obéir. Mmh. Et là, on voit arriver effectivement tout ce contrôle, la jalousie, contrôler et éloigner tout le monde, isoler sa proie pour mieux la dévorer. C'est vraiment... Et à un moment donné, effectivement, ce déclic... Toutes les victimes que je suis depuis des années ont prononcé cette phrase « J'allais y laisser ma peau ». Mmh. Toutes les victimes le disent, hommes et femmes,
Mais ce qui fait l'emprise, c'est que le pervers, c'est comme, moi j'appelle ça vraiment une forme de psychose blanche, c'est-à-dire que ça ne se voit pas, on a évoqué l'absence d'empathie, mais surtout ils arrivent à rentrer dans votre tête et à identifier ce que vous désirez le plus et à y répondre au plus près pour mettre en place justement cette emprise. Et ensuite, il y a une culpabilité très importante parce qu'ils ne fonctionnent que sur la culpabilité, ça c'est une première chose, et pour justement rendre encore l'autre coupable, ils attaquent toujours l'image du corps. Pourquoi ? Parce que et l'un et l'autre, et la victime et le bourreau, ont tous les deux une quête d'idéal. Le bourreau, ce pervers, a toujours besoin d'être parfait, donc dans une forme d'idéalisation, et la victime est en quête aussi d'idéal d'un partenaire. Donc ils se rencontrent là-dessus. C'est ça qui est très subtil et très difficile à décortiquer.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, pour poursuivre notre conversation et alerter sur ce sujet. À tout de suite.
RTL.
Flavie Flamand. Bon après-midi sur RTL.
On a tellement de choses à se dire.
14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Christelle Petit-Colin, Yvonne Poncet-Bonisol avec vous. Nous parlons des pervers narcissiques. Yvonne Poncet-Bonisol, sont principalement les hommes.
Non, ça se conjugue au masculin comme au féminin.
C'est dingue parce qu'on ne parle... Écoutez, franchement, les témoignages que l'on reçoit, on n'a quasiment que des femmes.
Mais oui, parce que finalement, les hommes n'osent pas se prononcer. Mais il faut voir que quand des femmes sont perverses, c'est terrifiant. Je veux dire qu'elle rapte les enfants. Ça se conjugue au masculin comme au féminin.
On ne parle pas... Alors, très bien. Donc, déjà, c'est bon à savoir, parce qu'on ne parle quasiment que des hommes depuis tout à l'heure, mais peut-être parce qu'on est entre femmes, évidemment, mais certains hommes nous écoutent et sont certainement victimes de perverses.
Oui.
La perversité narcissique, elle ne s'applique pas que dans le domaine amoureux.
Non, elle s'applique dans le travail, partout.
Dans la famille, avec les enfants.
Dans la famille, avec les enfants, partout. Je veux dire que c'est un rapport de domination et de prédation. C'est-à-dire que le pervers narcissique ne peut exister que quand il écrase et quand il dévore l'énergie de l'autre. Il en est dénué. Et comme il en est dénué, il va se tourner vers des personnes qui en sont, je dirais, presque nourries. Je veux dire qu'ils sont pleines d'énergie. Et donc, pleines de spiritualité, pleines de créativité et surtout pleines de naïveté. Donc elles ont une forme de cécité psychologique, et alors là, quand ils perçoivent ça, ils s'engouffrent, parce qu'un pervers ne va jamais aller vers quelqu'un où il n'y a rien à manger. Il va toujours aller vers les personnes qui vont pouvoir leur apporter quelque chose de vital.
Alors, on me fait passer ce message qu'à notre standard, justement, il y a des hommes qui appellent, effectivement, pour dire qu'ils ont été victimes, eux aussi, de pervers, et que ça n'est pas, uniquement une affaire de femmes. Il y a quelque chose aussi, Christelle Petit-Collin, qui est assez puissant, c'est que les pervers narcissiques, on va écouter là tout de suite un extrait du film Mon Roi, de Mai Wen, les pervers narcissiques ont toujours réponse à tout, c'est-à-dire qu'on ne sait plus à un moment donné comment s'en sortir. C'est un piège qu'ils nous tendent dans la communication.
Quand on aime, on souffre.
Ouais, ouais.
C'est pas facile.
Mais toi, tu souffres pas beaucoup.
Mais qu'est-ce que t'en sais ? Putain, mais arrête un peu de me dire ce que je ressens. Tu me fais chier, quoi, c'est vrai. C'est quoi ce truc, là ? Qu'est-ce qu'il faut que je te dise ? Faut que je me mette à chialer toutes les deux minutes ? Qu'est-ce que tu sais de ce que je ressens ? Il faut que je sois extérieur pour que. Il faut quoi ?
Tu t'es battu, toi ?
Oui.
Non.
Ouais.
Pas une seconde.
Toi, se battre, c'est quoi ? C'est pousser des cris, avoir du son partout, etc. Moi, c'est pas comme ça que je me bats, c'est tout. Je me démerde pour que tu puisses pas partir. C'est ma manière à moi de me battre. Pourquoi tu veux que je sois comme tu veux ? Alors que t'es venu avec moi, justement parce que je suis comme je suis.
Qu'est-ce que l'on peut dire, Christelle Petit-Collin ? Qu'est-ce que l'on peut faire face à des gens qui, à un moment donné, mènent la danse dans les conversations ? Et on a l'impression, vraiment, que dans une conversation, ils vont tirer à quatre bandes. C'est-à-dire qu'au moment où on est là, en fait, eux, ils sont 50 mètres devant nous, quoi. Ils appréhendent ce que l'on va dire. Christelle Petit-Collin.
Alors, moi, j'anime des webinaires sur « Décoder la langue de bois ». Parce que ce qu'ils disent, c'est de la langue de bois. C'est-à-dire, ils disent ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. Ça n'est jamais sincère. Hein. Ils utilisent les mots comme des pions sur un échiquier. Et donc, il faut vraiment apprendre à se décoller du contenu du discours pour en sortir au maximum. Ça pourrait être résumé comme ça. Je conseille à mes stagiaires, quand ce dit la personne vous hypnotise, imaginez-vous manger une biscotte, que ça va se crush, crush, dans votre tête, au lieu d'entendre tout ce discours qui vous hypnotise.
Ouais.
Il faut plus rentrer dans le contenu. Je parle des hectolitres de salive que mes victimes ont utilisé, essayer de se faire comprendre en vain. Elles me disent « Ah, j'ai eu une longue conversation avec mon conjoint, longue comment ? 4 heures. » Dans ces cas-là, moi je réagis en disant « Eh ben dis donc, il comprend vite. » 4 heures de discussion à tourner en rond pour rien. C'est du blabla.
Ça épuise Yvonne pour ses bonnes.
Oui, alors je crois qu'il faut aussi penser le pervers narcissique comme un comédien des sentiments. Il faut le regarder comme si on regardait une vraie comédie, tandis que la victime est dans le sentiment. C'est pour ça qu'on trouve finalement une forme de discours paradoxal chez le pervers. Il parle fort bien parce qu'il est dénué d'émotion. Donc son langage, c'est un langage qui est structuré, mais que structuré et mis bout à bout où il n'y a pas de sentiment derrière. Donc il peut aller très très loin. Donc il faut le regarder comme un comédien et il faut regarder son discours et le fait qu'il parle comme ça avec beaucoup d'emphase comme une scène de théâtre, si vous voulez, pour justement dévitaliser la relation.
Allez, on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Yvonne Poncet-Bonisol, il y a un instant, vous avez dit bon, voilà, il faut prendre du recul et les voir comme des comédiens du sentiment, on a bien compris, et essayer finalement de nous départir de toute émotion. Comment ça se passe, Yvonne, quand il y a de l'amour là-dedans ? Quand c'est un enfant vis-à-vis d'un parent, quand c'est un parent vis-à-vis d'un enfant, quand c'est une...
C'est très compliqué.
Comment on fait pour regarder l'autre ?
Alors, il faut quitter finalement cette forme d'idéalisme mortifère. Ah oui. Et je crois que c'est dans l'idéalisation que se crée finalement l'emprise. Donc, si c'est apparent, il faut effectivement voir qu'il a ses imperfections. Il faut le voir plus dans une forme d'humanité, c'est-à-dire de limite. Il faut quitter toute forme d'idéalisme. Ça, c'est la première chose. La peur aussi, la fascination. Tout ça, c'est un travail très important. Et surtout, la culpabilité. Et c'est très lent et long.
Eh oui. Christelle nous écrit sur Facebook, ma mère est perverse narcissique, elle a été diagnostiquée. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de pervers narcissique pour juste une bande d'imbéciles ou de jaloux, mais le seul moyen de s'en sortir est de couper tout lien, nous écrit-elle en lettres capitales. Ouais. Il n'y en a pas d'autre, c'est un état, c'est pas vraiment une pathologie, cela ne change jamais. Ma porte de sortie a été d'être moi-même mère et de vouloir à tout prix protéger mon enfant. Christelle Petit-Collin.
Oui, c'est vraiment important de réaliser ça, il ne change pas.
Ils ne changeront jamais, parce qu'on a toujours cet espoir qui change, en fait.
Et donc, une des façons de sortir de l'emprise, c'est aussi d'arrêter l'usine à fabriquer des excuses et de revenir, comme disait Yvonne, pour sortir de la fascination, il faut revenir à du factuel. Moi, j'ai des victimes qui vont avoir un discours très enflammé, mon mari est parfait, il fait tout pour me faire plaisir. Alors moi, je dis quoi concrètement? Et puis quand on cherche, il fait rien, c'est que dans les mots. Donc revenir à du factuel, à du concret, c'est comme ça aussi qu'on peut commencer à les désidéaliser, revenir vraiment sur terre. Après, c'est long, mais ça fonctionne sous forme de déclic, hein, comme a dit Stéphanie tout à l'heure. À un moment donné, il y a le truc de trop qui nous sort d'hypnose et qui fait que brusquement on ouvre les yeux et qu'on voit qui est la personne. Mais quand les affects jouent, c'est compliqué effectivement de prendre ce recul.
Yvonne ?
C'est là qu'on retrouve le chemin de la liberté, c'est-à-dire pour s'en sortir, il faut se sentir libre de penser, libre d'être autonome, libre de ne pas penser à travers lui et par lui. Donc je crois qu'il y a cette notion de liberté et il est vrai que toutes les personnes qui sont sorties de cette forme d'emprise disent volontiers qu'elles voient la vie avec d'autres couleurs, elles ne sont plus enfermées, elles ne sont plus isolées, elles vivent.
Parce que c'est possible, il faut bien le préciser. On a un message d'Alexandra qui nous demande si ces personnes-là sont conscientes de ce qu'elles font.
Oui et non, les deux. Ouais. J'ai envie de vous dire que quand j'avais évoqué tout à l'heure la notion de psychose blanche, elles sont dans une forme de pathologie, mais elles n'en ont pas tout de suite toujours conscience parce qu'elles ont un besoin farouche de dominer l'autre pour exister. Il faut savoir que la perversion narcissique est un mécanisme de défense pour ne pas sombrer dans la folie. Parce que ces êtres sont des êtres dépressifs. Et pourquoi on y est attaché? Parce qu'ils réveillent en vous un sentiment de protection. Pour les femmes, un sentiment de maternance et pour les hommes, un sentiment, ils ont envie de protéger cette petite fille qui est diabolique, qui est la femme perverse. Voilà. Donc vous voyez, c'est très intéressant et c'est très difficile à décortiquer.
Oui, parce que le ressort, c'est évidemment aussi la victimisation. Christelle Petit-Collin.
Moi, je nuancerais, ils sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils font que ce qu'on voudrait bien croire, parce que c'est très dérangeant de voir à quel point ils savent très bien ce qu'ils font. Mais pour vous donner un ordre d'idée, pendant les vacances de Noël, j'ai reçu un mail. Bonjour, je viens de lire votre livre « Échapper aux manipulateurs ». Je suis un manipulateur. Vous nous avez très bien décrit, vous avez juste oublié un point important, le parasitisme. Bonne soirée. Quand moi je reçois des mails comme ça, je ne peux pas douter une seconde qu'ils sont beaucoup plus conscients que ce qu'on veut bien croire.
Sauf que parfois, Christelle, la jouissance fait qu'ils ne sont pas toujours conscients, ils sont dans une dimension très pulsionnelle. Donc, bien sûr qu'ils sont conscients à certains endroits, mais ils sont aussi souvent dans le déni, dans le délit et dans le défi.
Mais c'est-à-dire qu'ils passent une vie finalement à faire des dégâts, Yvonne, je vais vous demander une réponse rapide, mais en fait, d'accord.
Sauf quand la vraie victime, ils peuvent devenir dépendants quand ils trouvent plus fort qu'eux. Alors là, ils se décomposent.
Beaucoup sont en prison, certains sont en prison aujourd'hui, Christelle Petit-Collin. Nous, on a des messages de personnes qui disent qu'il a fini par être incarcéré pour violence.
Alors j'ai l'impression qu'avec le temps, hein, puisque ça fait quand même pas mal d'années qu'Yvonne et moi on consulte, on voit les mentalités changer, la police être beaucoup plus à l'écoute, la loi se poser beaucoup mieux.
On l'a entendu avec les témoignages de Stéphanie.
Hein, la police a été ok avec Stéphanie, effectivement. Ouais. Donc on peut espérer qu'il y ait une prise de conscience collective qui fait que leur espace de nuisance est en train de se rétablir. rétrécir.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Christelle Petit-Collin, d'avoir accepté mon invitation. Victime, bourreau, sauveur, comment sortir du piège? On l'aura bien compris, c'est aux éditions Jouvence. Et le samedi 24 juillet, donc, vous proposerez un webinaire sur les enfants de manipulateurs, comment les protéger.
Voilà.
Merci à vous, merci. Yvonne Poncet-Bonisol, merci beaucoup de nous avoir éclairés de votre expérience de psychologue clinicienne. On conseille pour en finir avec les tyrans et les pervers narcissiques dans la famille aux éditions d'Angle. Et vous en avez cité un autre tout à l'heure aussi au sujet des enfants.
Protéger l'enfant du parent pervers narcissique.
Voilà. Et effectivement, que les tribunaux soient sensibilisés aussi à
les
cela.
Les juges le sont maintenant. Ça va beaucoup mieux.
Et ça va mieux. Merci beaucoup, en tout cas, Yvonne Poncet-Bonisol. Je vous remercie tous de nous avoir suivis, évidemment. On fait quoi demain? On recommence, dites donc. Et ce, dès 14h30, en direct, s'il vous plaît. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à demain.
RTL. On est fait pour s'entendre.